Beaucoup de gens nous reprochent parfois, puis bon, on va l'apprendre, la critique, mais vous savez que c'est pas évident. La COVID-19 prend tellement de place. Je pense que c'est comme ça aussi dans vos vies. Qu'on parle de ça tout le temps, est-ce qu'on a tendance à négliger certaines choses?
Absolument.
En matière de santé, peut-être. C'est évident que là, ça retient toute notre attention. Il y a des gens, peut-être, qui souffrent ces temps-ci, qui sont en attente d'opérations, etc. On parle de délestage. Ça, on a quand même parlé pas mal. Puis, j'étais content qu'on en parle. C'est important. Ce sont eux aussi des victimes collatérales ou indirectement de la COVID-19. Il y a eu une entrevue, je pense qu'on a un extrait à faire passer.
Mm-hmm.
Une entrevue qui a fait beaucoup jaser à Tout le monde en parle hier. Je vais laisser Karen le présenter.
Sylvain, c'est Marie-Pierre Savaria, c'est la maman de Justin Lefebvre qui est malheureusement décédé d'un accident dans une piscine d'un ami. C'est pas une noyade, c'est un œdème cérébral qui est arrivé parce qu'il jouait, comme on a sûrement tous déjà joué, à retenir son souffle dans l'eau. Malheureusement, il a perdu la vie et elle a fait un beau témoignage poignant. C'était difficile de rester insensible à cette maman-là hier sur le plateau de Guillaume Lepage.
Puis là, j'ai pris le temps de lire un petit peu, puis c'était écrit qu'un enfant en bas de 14 ans pouvait signer, évidemment, avec l'initiale du tuteur ou du parent. Alors, je disais à Justin, viens ici, regarde, j'ai une belle carte pour toi que je vais mettre dans mon portefeuille, c'est ta nouvelle carte. Puis là, derrière, on peut coller, puis tu pourrais écrire. Maintenant, là, que tu sais lire puis écrire, ce serait toi qui pourrais signer. Puis ça veut dire que, tu sais, un jour, là, tu sais, ça arrivera jamais.
Quand tu vas être vieux, là.
Oui, ça arrivera jamais. Mais, tu sais, toi qui es grand, qui es en santé, qui es sportif, là, est-ce que tu accepterais, toi, de donner la santé en retour, en donnant peut-être ton cœur? Puis là, il m'avait dit, ben oui, maman, tu sais, moi, là, je suis en pleine forme. Fait que là, il avait signé ça. C'est sûr qu'on a effleuré le sujet dans des mots d'enfant très légèrement. Je voulais pas l'angoisser avec tout ça, mais je suis bien contente de savoir qu'on a pris quelques minutes.
Justin a donné 4 de ses organes. Aujourd'hui, son cœur, son foie et ses reins sont vivants chez 4 enfants.
Ouais.
Une fois par année, Transplant Québec vous donne des nouvelles de ces enfants-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous de savoir ça?
C'est un beau cadeau, c'est une fierté. On le sait encore vivant. On sait qu'il grandit encore au travers. Ces enfants-là qu'on savait à l'époque, quand ils ont été transplantés, c'était 4 enfants en bas de 8 ans, dont un là, qui avait besoin d'un cœur. Paraîtrait-il là, qu'il restait... C'était le temps. Alors, de les savoir, de savoir que Justin a pu faire ce beau cadeau-là du haut de ses petits, grands 8 ans.
Oui, sauver la vie de 4 personnes.
Vraiment.
C'est touchant. C'est à la fois triste, mais... C'est à la fois beau aussi, je sais pas si...
Plein d'espoir là-dedans.
Vous comprenez? Oui, oui. Alors, 4 autres personnes qui ont reçu les organes de Justin. Comment ça se passe? Si on regarde ça un peu, ça c'est une histoire. Ça nous permet de regarder le portrait en général un peu chez Transplant Québec en temps de pandémie. Est-ce que c'est plus long? Est-ce que s'il y a moins d'accidents, là, je vous allais trouver ça un peu étrange ce que je vais dire là, mais je vous en ai déjà parlé. Quand il y a moins d'accidents de la route, pour eux... Ben, ça enlève des possibilités, vous me suivez?
Mm-hmm.
C'est comme ça parce que c'est des morts soudaines, rapides et souvent qui permet le transplant d'organes. Fait qu'on va aller rejoindre à l'instant pour s'informer de la situation. Le docteur Mathieu Weiss, il est directeur médical chez Transplant Québec. Docteur Weiss, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe chez vous, chez Transplant Québec, au temps de la pandémie? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que vous êtes affecté par tout ça?
Oui, je vais toucher à ça, mais juste avant ça, je vais juste mettre l'emphase sur l'histoire qu'on vient d'entendre. Oui, c'est vrai que c'est touchant. Moi, mon travail clinique, quand je suis aux soins intensifs, c'est en pédiatrie. Donc, c'est ces situations-là où les parents sont capables de donner les organes de leur enfant qui est décédé, qu'on vous dit, c'est une tragédie inimaginable, mais de tirer un peu d'espoir de ça, là, ça donne au moins un peu de sens à la perte. Mais bon. Pour revenir à ça, je voulais juste mentionner ça avant de commencer sur les chiffres. Mais pour les chiffres, oui, c'est vrai que le COVID a eu des impacts dans le don et transplantation, comme dans tous les secteurs de la santé. Il y avait un baisse d'à peu près 20% de notre activité de don et transplantation, qui est semblable à ce qui s'est passé partout au Canada, dans l'Europe, là, c'est assez semblable. On met ça sur deux choses. Le premier problème, c'était juste de de confirmer que c'était sécuritaire, qu'il n'y avait pas de risque de transmettre le COVID entre un donneur et un receveur, pour être sûr qu'on avait des protocoles en place pour protéger les receveurs de ce risque-là. Parce que c'est sûr que la pire chose qu'on peut faire, là, c'est transmettre un virus à quelqu'un qui vient de recevoir et qui va être immunosupprimé après. La deuxième chose, c'était le délitage. C'est sûr que il y a il y a toutes sortes de greffes et transplantations, mais parce que ils sont pas tous aussi urgents un à l'autre. Donc, quelqu'un qui est en attente d'un cœur, qui a une grosse déférence cardiaque, c'est sûr que ça, c'est très, très urgent par rapport avec quelqu'un qui, oui, ils ont besoin d'un rein, mais ils sont sous dialyse et ils sont capables de continuer d'être en dialyse de temps en temps. Donc, c'est comme un remplacement rénal, ça. Okay. Donc, le faire, c'est les procédures qui étaient jugées moins urgentes étaient délistées et pendant qu'on focusait vraiment sur la prise en charge de la situation de COVID.
Est-ce que concrètement, là, ça peut vouloir dire quoi pour que les gens réalisent un peu? Là, sais-tu, 6 mois, 1 an, est-ce que vous avez dit à peu près 20% qu'on a été affecté en général? Les délais étaient déjà quand même assez longs. Ça veut dire que quelqu'un qui se présente chez vous, tu sais, il a besoin de reins ou cœur demain matin, il peut attendre jusqu'à combien de temps?
Mais ça dépend. Ça dépend la situation spécifiquement, là, ouais. Mais oui, ça peut être des mois, même plus qu'un an, là, dépendant de l'organe. Et aussi comment la personne est malade. Plus que il y a une urgence, comme j'ai mentionné, là, ouais. Plus que ça va le mettre haut dans la liste. Mais donc c'est très variable. Il y a des gens qui sont sur la liste pendant 1-2 semaines. Il y a des autres qui ça fait des mois. Et on ne sait pas à quel point le fait qu'on était moins capable de transplanter va affecter la liste à long terme. C'est sûr qu'a augmenté en petite affaire par rapport avec l'année passée, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il y avait moins de monde qui consultait leur médecin, qui sont peut-être dans une situation là où ils seraient éligibles pour un greffe, mais ils sont juste pas encore évalués. Ça, ouais. C'est possible.
Ça, on va savoir ça plus tard, comme bien d'autres choses reliées un peu à la peur ou au délestage. Comment on fait? Dr. Weiss, je veux revenir un peu à l'entrevue où la mère de Justin parle de tout ça. Mmh. Elle avait fait tous ses devoirs, puis elle a dit oui. Puis vous œuvrez là-dedans. Comment on fait pour en convaincre plus? Parce que ce qu'on comprend, puis évidemment qu'on respecte ça, il faudra jamais forcer les gens, mais la majorité des gens, ils disent non. Ça peut être des raisons religieuses, d'éthique personnelle, mais comment on fait pour en convaincre plus d'agir comme la mère de Justin?
Ben, je vais juste clarifier une petite pointe. Là, c'est pas que la majorité dise non. Là, c'est quand même, on a un taux de consentement qui est autour de 60%.
Ah, OK.
Donc, mais quand même, on a toutes les raisons de croire que le taux de consentement pourrait être plus haut. Quand on fait des sondages des Québécois, c'est 90% qui soutiennent le don et transplant.
Ben oui.
Donc, il y a comme un écart entre le 90% que quand on discute ça autour de table avec nos amis et quand on est vraiment face à face en décision. Mais c'est pas à la base, là, c'est pas si difficile à comprendre dans le sens que c'est une situation excessivement émotive. On vient d'entendre le témoignage. On est dans une situation où un de nos proches, peut-être notre fils, peut-être notre père, peut-être notre oncle, vient de décider soudainement. Et là, tout d'un coup, on est pris de prendre une décision sur le don d'organes. Donc, dans cette situation-là, tellement chaude au niveau émotif, c'est sûr que parfois on prend une décision qui ça semble juste trop quand on parle de don d'organes. Non, je veux juste... Il y a tellement des choses qui se sont passées là qu'on va juste s'en aller. On ne va pas prendre un autre 5 minutes aux soins intensifs pour considérer une autre affaire. Donc, c'est quand même assez compréhensible, cette réaction-là. Et je dirais que ça, c'est plus fréquent que une objection purement religieuse.
Je comprends. C'est le temps, hein, Dr. Weiss, c'est parce que je sais que le temps, puis je vais vous poser la question justement, si les gens avaient peut-être une journée, 2 ou 3 pour y penser, peut-être que nous, on en viendrait à des chiffres plus proches que 90%, parce que c'est leur intention première. Mais vous avez parlé de temps, et c'est urgent à partir du moment où on constate le décès. Qu'est-ce qui se joue ensuite, là?
Mais c'est heureusement dans le cas de décès neurologiques et même dans les autres formes de dons, là, c'est oui, le temps joue un rôle, mais une fois qu'on a stabilisé le patient post événement initial. Dans le cas de l'entrevue, c'était une noyade ou ça peut être une autre affaire, une blessure, un accident de route ou quoi que ce soit. Une fois que le patient est stabilisé dans un état de décès neurologique, c'est sûr que le cerveau est blessé au point que ça va jamais revenir. Okay? Et ça, on sait. Mais les autres organes fonctionnent bien. Ils fonctionnent aussi bien qu'on peut les transplanter même. Donc, le patient autrement est relativement stable à ce point-là. Le patient est branché sur un ventilateur aux soins intensifs, on est d'accord. Mais c'est pas une question de minute en minute, les autres organes vont tomber en déférence.
Okay.
En fait, on a quelques jours avant nous pour faire l'allocation des organes, pour faire les tests, pour être sûr que le donneur et les receveurs sont compatibles, et aussi d'organiser la logistique d'aller au bloc, ces affaires aussi. Donc, en fait, ce que la formation qu'on donne aux médecins, c'est qu'il faut laisser le temps pour la famille d'absorber les mauvaises nouvelles sur le pronostic, sur le fait que le patient va mourir ou est déjà décédé. Et c'est pas ça le moment de parler de don d'organes. C'est après qu'on a eu un peu de temps d'absorber toute cette information-là, et puis on commence d'aborder le sujet.
Et est-ce que tous les médecins le font? Est-ce que, parce que je suis convaincu qu'ils veulent, ils veulent sauver des vies, là. Mais est-ce que tous les médecins sont bien sensibilisés pour le don d'organes, puis la job se fait bien, ou des fois, c'est sûrement pas pour faire du mal, là, mais est-ce que ça se peut qu'ils oublient ou que c'est des situations pas toujours évidentes, là?
Non, c'est une très bonne question. C'est sûr que, mais tous les médecins, c'est un gros mot, tout, parce que c'est sûr que, mais parce que c'est pas 100%. Et comme vous dites, il y a plein de raisons. J'ai participé avec plein de collègues de faire un sondage des médecins qui travaillent aux soins intensifs au Canada. Et à peu près la moitié ont avoué qu'au moins une fois dans leur vie, ils n'ont pas approché une famille pour plein de raisons. Mais y compris, souvent, ils disaient, la famille était bouleversée. Et ouais, je voulais pas ajouter. Mais ce que je recommande pour ces gens-là, c'est que parfois les familles, la plupart des familles, ils sont très contents avec la décision si c'était pour donner ou ne pas donner. Mais quand on regarde les sondages des familles, là, il y a tendance pour les familles qui n'ont pas donné de le regretter un peu plus. Donc, ça veut dire que le médecin qui est en train de, entre guillemets, protéger la famille, à ce moment-là, peut-être est en train de mettre la famille plus à risque d'avoir des regrets dans le futur.
Un an
plus tard, ils se réveillent et disent « Hey, personne m'a demandé sur le don d'organes. Ouais. » J'aurais dit oui.
Surtout quand on voit la réaction là, de la mère de Justin, tout le monde en parle. Elle parle de 4. Je pense que ça peut être plus que ça. Ça peut aller jusqu'où, mettons, une personne? As-tu déjà 5, 6, 7, je sais pas, là?
8 organes, même, là.
C'est 8?
Si on inclut les intestins, là, même les intestins sont greffables. Donc, c'est sûr que c'est très rare qu'on a un donneur qui donne autant d'organes que ça. Mais le moyenne, dépendant le type de don d'organes, là, c'est entre comme 3 et 4, parfois 4 et demi dans certains centres qui sont très performants.
Et en termes d'âge, parce que évidemment, plus on est jeune, en général, t'es en santé, mais est-ce qu'il y a des gens de 50, 60, 70 qui, je sais pas, peut-être que les organes sont encore bons?
On a eu un donneur de 92 ans.
Hein?
Ah oui, mais c'était de foi. C'est okay. Parce que la foi se régénère toute notre vie. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de limite. Et on a une population qui est de plus en plus en forme, en vieillissant.
Oui.
Et donc comme je parle avec mon collègue Dr Chaudhry, qui est le directeur médical de chirurgical de Transplant Québec. Les règles d'âge sont de moins en moins strictes. C'est vraiment la règle de fonction de l'organe.
Bon, ben, il faut passer le message. Il y a peut-être des gens qui vont penser qu'au-delà d'un certain âge, ben là, regarde, c'est pas pour moi, mais vous êtes concernés, surtout parlez-en, on le répète, parlez-en à votre famille, c'est hyper important de le faire, parce que juste signer la carte, ce n'est pas suffisant. C'est ce que moi j'ai compris, il faut en parler aux proches.
Ben, exactement, mais c'est ça, parce que vous allez être inconscient. C'est vos proches qui allaient prendre la décision finale pour vous. Donc, c'est sûr que si les autres savent qu'est-ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus facile pour eux autres après.
Et pour l'équipe. Dr. Weiss, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
Mais merci de l'occasion. Là. C'est
bonne journée.
Cause.
Bonne journée. Merci. Au revoir, le Dr. Mathieu Weiss et le directeur médical de Transplant Québec. Ça faisait suite à cette entrevue touchante de la mère de Justin, Tout le monde en parle, où son enfant a sauvé 4 vies. Dr. Weiss, ça peut aller jusqu'à 8, 9. Même les intestins, maintenant, se greffent. Ouais. Ça peut être le foie d'une personne de 92 ans. Alors, il n'y a pas d'âge. Moi, la limite d'âge, tu vois, ça, je viens de l'apprendre. Je pensais qu'au-delà d'un certain âge, mais non, il peut
encore
y avoir.
Pour le cœur, c'est sûr que c'est pas un cœur de 92 ans, un gars de 14 ans.
On comprend, mais regarde, tu vois, il y a encore des organes qui peuvent servir. Alors, continuez d'en jaser. Les médecins aussi ont une tâche importante là-dedans. Il y en a peut-être qui l'oublient ou je comprends le contexte. Puis il l'a bien dit, hein. T'annonces à quelqu'un que son proche va mourir. Là, ensuite, parler des dons d'organes.
Il est déjà à terre. Hey
boy, ça ne doit pas être évident.
Ouais. On a des beaux témoignages au 25-26. J'avais accepté le don d'organes pour ma fille qui est décédée à 3 jours. Mais ça n'a pas fonctionné, faute de receveur. On s'entend qu'un bébé de 3 jours, ça ne doit pas être évident d'avoir des receveurs. Hein?
Le plus jeune au Québec avait 48 heures. Donc, dans son cas, elle, je comprends que ça n'a pas marché, mais son intention était bonne. Oui. J'ai lu tantôt qu'on parlait de 96 ans, qu'a dit le Dr. Weiss?
92.
92 pour le plus vieux. Le plus jeune avait 48 heures. Imagine. Et dans certains cas, ils réussissent. Alors, vous voyez, l'âge n'est pas un facteur.
La fille de 14 ans de mon ami est décédée subitement vendredi. Dimanche, ils ont procédé au don d'organes. Toutes mes condoléances à cette famille-là, mais merci de votre générosité.
Sachez que vous donnez de l'espoir à du monde au moment même où vous vivez cette affaire-là qui doit être la pire chose au monde, là, perdre son enfant, là, hein, survivre à ses enfants, on le dit souvent, là, on devrait
c'est
pas
supposé,
c'est la pire chose. Au moment où vous vivez ça, en quelque part, grâce à vous, dans un autre hôpital, dans une autre salle, il y a quelqu'un qui reprend vie et qui revit grâce à vous. Alors, c'est beaucoup de générosité. 90% des Québécois en sondage, j'ai retenu ça, disent qu'ils sont pauvres. Or, quand vient le temps, on est aux alentours de 60. Ce qui est un peu mieux, je suis convaincu que ça a avancé. Moi, j'avais déjà vu 50.
C'est sûr que oui.
Fait que ça progresse, on est rendu à 60. Mais voyez qu'il y a un 30% que on peut mettre ça sur le comment je pourrais dire ça? Sur la faute, ben pas la faute, mais du contexte, certainement.
Ouais, c'est ça. Je rejoins un peu ce que Myriam Sayel disait souvent par rapport au don d'organes. On devrait peut-être mettre l'option de opt-out, là, donc je refuse de donner mes organes plutôt que de demander aux gens de signer, de faire le geste actif
que
de donner.
D'office, on les donne, sauf si on signe le
sang. Je pense que comme société, on serait rendu là.
Mais encore là, les proches auront la décision finale lors du moment. Même si tu dis oui, eux pourraient dire non à la dernière minute. Mais là, ça empêcherait peut-être justement de la petite discussion, puis y penser, puis le médecin qui doit.
Parce que si toi, t'as quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui a déjà parlé, ça fait moi, je serais bien à l'aise de donner mes organes, mais il a pas signé sa carte. Là, ça peut créer un quiproquo, là. T'sais, fait que, parce que la fameuse signature, je pense qu'elle est encore importante, là. Fait que peut-être que ce serait préférable
Quelques pays l'ont fait. L'Espagne notamment. Évidemment que le don d'organes est plus nombreux. Mais là encore, il y a certaines critiques. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais lui, il était pas au courant, là. Tu sais, c'est une décision que le gouvernement prend pour tous ses citoyens, pareil, là, sur leur corps, même si c'est après la mort. Regarde l'histoire de vaccins, comment ça fait débat. Alors, si un jour on dit, par défaut, tout le monde est donneur d'organes, vous avez juste à signer, donc, un opting out, c'est ça le mot?
C'est ça.
Mais il y en a qui vont dire, il y en a qui sont pas au courant, ils sont pas capables de signer, ils n'ont pas eu l'information, le gouvernement les a un peu forcés.
Ben, l'argument, bien sûr, c'est, tu vas être mort, mon gars, là. Vaccin, je peux comprendre la réaction épidermique des gens, c'est un mauvais jeu de mots, parce que t'es vivant, là, peut-être qu'il y a des inquiétudes, ça. Quand t'es mort, tu seras pas au-dessus. Tiens, voilà, ils sont en train d'enlever mon pancréas.
C'est ton choix. En passant, c'est toi qui décides ce qu'on va faire avec ton corps après ta mort.
Je sais.
Même si t'es mort, Jean-Simon, la façon dont l'enterrement, t'es-tu incinéré, exposé, c'est toi qui décides.
Je sais, mais quand tu peux sauver une vie en n'étant pas conscient. En tout cas, c'est mon point de vue, là.
25-226, c'est pour savoir ce que vous en pensez.